J'enregistre la présentation. Voilà, bon, pour vous, ça ne change rien. Je vous le dis parce que du coup, si vous intervenez pendant le cours, si vous posez des questions ou quoi, l'audio est enregistré, donc tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais je préfère vous prévenir. Voilà. On va reprendre où on en était la semaine dernière. Je reprends mes notes. Donc, on avait passé en revue les différents types de boîtes à outils de construction d'interface. On a vu les approches maximalistes, minimalistes, toutes ces choses-là. On avait passé en revue les widgets, donc les composants interactifs. On avait parlé du modèle MVC, donc en vous expliquant ce que c'était que le MVC vu par le MVC historique, je dirais, c'est-à-dire les gens qui ont inventé ce terme-là, donc les gens de Smalltalk, donc où les widgets étaient séparés en trois morceaux. Excusez-moi, je n'ai pas eu de pause. Comment Java avait adapté cette idée de MVC en faisant plutôt un modèle, ce qu'ils appellent une architecture Separable Model Architecture, donc où le modèle, la partie qui stocke les données des widgets, est séparée des widgets dans un autre objet, mais où la partie vue et contrôleur, donc la vue, la sortie et contrôleur, l'entrée, dans le modèle MVC original là, de Krasner et Pope. Ces deux choses-là sont réunies dans un seul composant. Voilà. Le morceau auquel on s'était attaqué ensuite, c'était les conteneurs et les gestionnaires de géométrie. Et c'est là où on va reprendre aujourd'hui. Donc, je vous rappelle... dans une hiérarchie de quoi ? Non. J'ai ma petite interface, alors je prends toujours un truc simple, une boîte de dialogue. J'ai un message, j'ai deux boutons. Et du coup, pour faire ça, j'ai une hiérarchie de composants, donc ce sont des instances. Donc cet arbre, c'est l'emboîtement de mes composants interactifs, l'emboîtement géométrique. Hein. Donc quand on a des enfants, par exemple, là, la partie panel, elle est c'est emboîté à l'intérieur géométriquement du rectangle où il y a la frame, d'accord. Et donc on s'était intéressé dans un premier temps à tout ce qui était composant. Donc tout ce qui est composant, c'était les feuilles de notre arbre, hein, les widgets. Et puis la partie qu'on regarde, c'est tout ce qui n'est pas feuille, donc ça veut dire tout ce qui a des enfants. Ça, ce sont les conteneurs. Et donc, nos conteneurs, ils ont une mission qui est de répartir, et en fait, c'est leur principal travail. Ils ont une zone rectangulaire qui leur est attribuée par la hiérarchie, on va dire. Donc, notre JFrame, là, elle choisit pas vraiment sa taille, quoi. Elle peut choisir sa taille, en tout cas au début, elle peut dire « moi, j'aimerais faire telle taille », mais si l'utilisateur redimensionne la fenêtre, si le système, pour une raison ou pour une autre, redimensionne la fenêtre, il y a des systèmes de fenêtrage où les fenêtres sont, par exemple, ce qu'on appelle du tiling, occupent des parties prédéfinies à l'écran. C'est le système de fenêtrage qui donne sa taille à la fenêtre. Donc en haut, en général, elle choisit pas sa taille. Et donc, sa mission en tant que conteneur, c'est j'ai une taille donnée, J'ai un ensemble d'enfants et qui, eux, donc c'est ça le principal échange d'informations entre les deux. Ils disent, moi, voilà la hauteur et la largeur que dont j'aimerais disposer. Donc ça, c'est le fils 1. C'est le fils 2. Lui, il aimerait disposer d'une largeur 2, etc. Donc j'ai des enfants qui ont des tailles données et la question c'est où est-ce que je les place à l'intérieur de la zone dont je dispose moi. D'accord? Et donc ça c'est ce qu'on appelle la gestion de la géométrie. Okay? Donc c'est des rappels hein, de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et on a vu en gros qu'il y avait des grandes catégories de conteneurs. Il y en a qui... En fait, font la gestion de la géométrie eux-mêmes et positionnent leurs enfants. Alors parfois avec en permettant aux utilisateurs d'influer sur la disposition des enfants. Donc c'est le cas par exemple le split pane. Le parent ne bah, tient absolument pas compte des desiderata des enfants. Et le split pane, il le coupe en deux. Il met le fils d'un côté, un des fils d'un côté, l'autre fils de l'autre côté, donc il peut avoir au plus de fils. Et il laisse à l'utilisateur la possibilité, par le biais d'interaction, de choisir la répartition. Donc des conteneurs qui ont un nombre fixé de filles, d'enfants, et qui décident... éventuellement avec l'aide de l'utilisateur, la répartition, il y en a un certain nombre. Sauter dans le cours. Voilà. J'avance. Donc je passe, hein, tout ça, c'était les boîtes de dialogue, quoi, les conteneurs externes. Et puis pour arriver au conteneur interne, donc il y en a toute une partie, donc viewport, vous vous souvenez, il a exactement un enfant, et cet enfant, il lui fait croire, donc l'enfant, il est éventuellement plus grand, ça c'est l'enfant, il lui dit, bah, écoute, tu as toute la place dont tu veux, mais moi, j'en affiche qu'un petit bout. Et c'est moi qui décide quel petit bout est affiché. Scroll pane, c'est la même chose avec en plus des barres de défilement. Donc l'utilisateur, c'est plus seulement le programme qui décide qu'est-ce qui est affiché de l'enfant, mais c'est l'utilisateur. Split plane, on vient le voir, deux enfants et l'utilisateur décide de la répartition. Étape pane, autant d'enfants qu'on veut, et l'utilisateur, à l'aide des onglets, décide quel enfant est visible à un moment donné. Donc voilà les grandes les conteneurs interactifs. Des conteneurs plus anecdotiques, mais qui permettent de structurer alors les menus, les choses comme ça, les listes, les tables, etc. En fait, ce sont des conteneurs. La plate, ça c'est complètement anecdotique. Et puis le conteneur le plus général, qui peut contenir autant d'enfants, qui n'a pas de limite sur le nombre d'enfants, donc à chaque fois qu'on fait add, bah, ça rajoute un nouvel enfant, c'est le panel. Alors le panel, il a ceci de particulier que la disposition des enfants, ce n'est pas lui. Qui l'a choisi. Souvenez-vous, il délègue cette partie-là à une abstraction qui est en fait l'encapsulation d'un algorithme qu'on appelle un layout. D'accord? Donc, layout, c'est un objet. En Java, tout est objet, donc on ne peut pas avoir des fonctions qui se baladent toutes seules. Et en gros, l'objet, les quelque chose layout, en fait, c'est rien d'autre qu'un algorithme qui est encapsulé dans une classe. Et il y en a différentes. Différentes variétés qui sont fournies avec la toolkit Java. D'accord? Donc c'est le pattern qu'on appelle aussi stratégie ou policy. Donc le fait de déléguer juste un algorithme, donc une partie de comportement d'un objet à un autre objet qu'implémente simplement cette partie-là. C'est ce qu'on appelle un. Donc vous avez dû voir en conception orientée objet, là, c'est ce qu'on appelle un patron de conception et qui peut s'appeler soit policy, soit strategy, quoi. Il y a différentes manières de nommer ce truc-là. Donc le layout, c'est ça. C'est une politique de placement. Alors, un layout en particulier, comment il fonctionne ? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, le layout, là, c'est la flèche qui est ici. C'est-à-dire que, alors, tout à l'heure, je vous ai fait un exemple où on avait pris le split pane qui positionnait ses enfants. Et en fait, le gestionnaire de le layout manager, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les enfants et c'est la flèche qui est là. C'est comment est-ce qu'il les dispose à l'intérieur de son parent, étant donné donc les connaissances a priori, c'est la largeur du parent, c'est les données du problème en entrée, la hauteur, le nombre d'enfants, leur hauteur, leur largeur. Okay. Alors leur hauteur, leur largeur, la hauteur qu'ils aimeraient avoir et la largeur qu'ils aimeraient avoir. Et donc avec ces données-là, notre gestionnaire de géométrie va découper le parent en morceaux rectangulaires pour attribuer ces zones rectangulaires à chacun des enfants. Okay. Alors, comment est-ce qu'il connaît les dimensions qu'aimeraient avoir les enfants ? On a vu un enfant, le gestionnaire de géométrie va lui demander quelle taille il aimerait avoir en lui demandant get preferred size. On a, nous, en tant que programmeurs, plusieurs moyens pour influer là-dessus. Soit en faisant un set preferred size, donc nos composants, on leur dit, bah, toi, la taille que tu aimerais avoir, la voilà. Et donc, quand quelqu'un va lui demander après quelle taille tu aimerais le voir, il va répondre bêtement la taille qu'on lui a donnée. D'accord ? Donc, c'est une manière de faire. Sachant que le get preferred size de la plupart des composants a, par défaut, renvoie des trucs assez logiques. Par exemple, une étiquette va demander suffisamment de place pour pouvoir afficher tout le texte qu'il y a dedans. Donc, si on a que quelques lettres, donc le get preferred size va être calculé en fonction du contenu de l'élément. Si on veut faire des choses plus avancées que juste un set preferred size, on peut spécialiser un composant et écrire une méthode get preferred size qui va faire des calculs plus compliqués que les calculs de base. Alors dans les set preferred size, on a aussi des méthodes set minimum et set maximum size qui permettent de borner nos composants. Par exemple, si on veut être sûr qu'ils s'affichent, même s'ils sont à moitié vides, on peut faire un set minimum size dessus. Alors on ne sera pas sûr, mais en tout cas, ils réclameront de la taille, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. D'accord, ils ne l'auront pas forcément, mais ils la réclameront quand même. Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Et l'autre chose qu'on peut dire aussi, par exemple, si on veut quelque chose qui prenne le plus de place possible, c'est que les dimensions, là, largeur et hauteur, on peut mettre des constantes qui veulent dire le plus possible. Donc des espèces d'infinis, des maxint ou des choses comme ça. Je ne sais plus comment s'appellent ces constantes, mais on peut faire en sorte qu'un composant demande une place qui ne soit pas juste un nombre de pixels, mais qui soit le plus grand possible. Voilà pour le mécanisme général. Alors, du coup, on avait vu quelques layouts et l'expérience souvent, set preferred size marche mieux que set size. Bah, c'est parce que set size, donc c'est une question dans le chat là. Set size, en fait, on va redimensionner un composant maintenant, mais encore une fois, le composant, en fait, il ne choisit pas sa taille. Donc, on peut le redimensionner à un moment donné, mais dès qu'on va. Dès que l'utilisateur va redimensionner la fenêtre, par exemple, en fait, en cascade, le haut, les composants qu'il y a dans la fenêtre vont réadapter faire leur layout. Et quand ils font leur layout, leurs enfants, ils leur demandent quelle taille tu aimerais avoir. Donc, ils font un get preferred size dessus. Ils calculent la taille, une nouvelle taille, et ils leur fixent la taille. Un composant, en fait, c'est le parent qui fait set size dessus. Nous, on peut toujours faire set size, mais à un moment, son parent va arriver, va faire un autre set size, et puis voilà, le composant, il est obligé d'obéir. Le seul moyen qu'on a d'influer sur la taille qu'aura un composant, c'est par le biais de ce qu'il va répondre quand son parent va lui demander quelle taille tu aimerais avoir. D'accord? Quand il va lui demander get preferred size. Donc, si on fait un set preferred size, on influe sur la réponse qu'il donnera plus tard à son parent au moment où le parent va lui assigner une place dans la hiérarchie, dans l'emboîtement à l'écran. D'accord? Donc, le set size, en fait, c'est un truc qui marche, c'est un fusil à un coup, quoi. Par exemple, si vous avez une fenêtre, vous pouvez faire set size dessus et du coup, la fenêtre va être redimensionnée à cette taille-là. Mais si l'utilisateur chope le coin de la fenêtre et redimensionne la fenêtre, votre set size, il a été oublié. Okay. En fait, set size, on ne l'appelle pas, quoi. Du point de vue du programmeur, ce n'est pas nous qui l'appelons, c'est le mécanisme de layout automatique qui va l'appeler en cascade pour positionner un set size, même un set position pour disposer les enfants. Donc voilà. Le border layout, donc un exemple de layout qu'on avait vu déjà la semaine dernière, sur lequel je vais revenir, repartir de zéro. Donc on a un parent, et en fait le border layout, il va avoir au plus 5 enfants en découpant des bandes. Une en haut, une en bas, alors qui s'appelle, on peut prendre les points cardinaux, donc qui s'appelle nord et sud. Et ouest et est. Et au milieu, un composant au centre. D'accord? Alors, sachant qu'on n'est pas obligé de mettre 5 enfants, on peut y en avoir que 2, peut y en avoir que. Mais sachant que, surtout, au moment où on va ajouter un enfant, on va être obligé de dire à quel endroit. Donc, si on a notre frame, et elle va avoir des enfants. Par exemple, si en bas on veut mettre ou au centre on veut mettre une étiquette. Et bien, du coup, dans notre arbre, là, chaque branche de l'arbre, on a dit que c'était un add. Et donc, on va mettre sur notre branche, on va dire à quel endroit on ajoute au centre. Et puis, mettons qu'en bas, je suis en train de refaire là, notre boîte à boutons en bas. Alors, ça s'appelle aussi bottom, mais je vais regarder les points cardinaux. En bas, on met un panel qui lui-même aura 2 boutons. D'accord? Donc, on va dessiner les arbres comme ça pour spécifier une hiérarchie. Là, on est en train de dire que en bas, on aura un panneau. Et puis, au centre, on aura un label. Alors, comme il n'y a pas de composant ouest et est, notre composant centre, il va prendre tout le reste de la frame. Okay. Et donc, notre frame, on spécifiera son border layout en mettant à côté, dans l'arbre, cette frame-là a un layout qui s'appelle border layout. Et son composant centre, c'est un label. Et son composant sud, c'est un panel. Okay. Alors, notre panel, lui, on va spécifier son layout pour dire comment vont s'organiser ses enfants. Donc voilà, le border layout, il a 5 enfants au plus et il les pousse sur les bords. Ce qui veut dire que chacun des enfants, en fait, ceux du haut et ceux du bas, ils auront la hauteur qu'ils réclament. Mais la largeur, ce n'est pas eux qui la choisissent, c'est la largeur de la fenêtre, quoi, la largeur du parent. Les composants ouest et est, ils choisissent la largeur qu'ils désirent, mais ils ne choisissent pas leur hauteur. Et le composant centre, il ne choisit rien du tout, il a la place qui reste, hein, qui est fixée par la largeur du parent moins la largeur des composants gauche et droite, et la hauteur du parent moins la hauteur des parents gauche et droite. Donc voilà pour le border layout. Et donc, ces méthodes add qui ont un deuxième paramètre pour dire à quel endroit on ajoute. Et si on utilise la méthode add traditionnelle à un seul paramètre, c'est comme si on passait en deuxième paramètre, border layout center. Alors, un truc là qu'on a vu que vous avez vu en TP par la force des choses, quand on rajoute des composants ou quand on enlève des composants, on doit dire aux parents quoi. On doit dire aux parents qu'on a fini de modifier la liste des enfants, en gros. Et donc pour ça, il y a une méthode qui est revalidate pour dire bah voilà, ça y est, j'ai fini de jouer avec ta liste d'enfants. Et pour que ça prenne effet, pour que effectivement ça arrive jusqu'à l'écran, il faut aussi dire bah maintenant redessine-toi, repaint. Okay. Donc il y a besoin des deux. Si on fait un repaint tout seul quand on a modifié la liste des enfants, en fait, le border layout, il n'est pas forcément au courant que la liste des enfants a changé. Donc, si on fait un repaint, ça peut faire un peu n'importe quoi. Donc, quand on touche aux enfants, il faut faire un revalidate. Et en plus, il faut faire un repaint. Il y a besoin d'appeler les deux méthodes pour être sûr que ça aille jusqu'à l'écran, que nos modifications aillent jusqu'à l'écran. Donc, il faut regarder la doc pour voir exactement ce que fait le revalidate et ce que fait le repaint. Mais en gros, le modèle, c'est ça. On touche aux enfants, il faut revalider. Et on touche à quoi que ce soit qui concerne l'affichage, il faut en plus se faire un repaint. Alors, le flow layout, c'est le deuxième gestionnaire de géométrie le plus utilisé. En gros, il consiste à mettre les enfants en les accumulant dans l'ordre, les uns après les autres, de gauche à droite. Alors, de gauche à droite, en fait, c'est par défaut, c'est ce qu'il fait. Et on peut agir là-dessus en décidant un flow layout. Alors, flow layout, je ne crois pas qu'il puisse être vertical. Flow layout, il me semble qu'il peut être que de gauche à droite ou de droite à gauche. Dans d'autres toolkits, on a des layouts qui s'appellent des hashbox ou des trucs comme ça, donc horizontaux ou verticaux, vbox. En swing, il me semble pas, et il me semble que c'est pour ça que dans le TP downloader, je vous ai fait un stack layout. Il faudrait vérifier ça, mais il me semble que c'est pas par pure envie de réimplémenter un layout que j'ai fait ça. Donc voilà pour le flow layout. Alors le flow layout, c'est le gestionnaire par défaut des panels. Et donc, si on reprend nos petits exemples là, de boîte à boutons, si on a un flow layout, et ben, du coup, il va nous mettre. Alors, on peut l'orienter à gauche ou à droite, mais il va nous pousser les boutons vers le bord, droite ou gauche. D'accord ? Alors, ce panel lui-même, donc, il a ses boutons, il va les mettre d'un côté. Quand son parent va lui demander quelle taille tu as besoin, alors le flow layout, en fait, il demande aux enfants quelle taille ils ont besoin. Et il prend la hauteur du plus grand et puis la largeur, la somme de la largeur de tout le monde. Donc il va dire à son parent, moi j'aurais besoin de telle taille. Et donc son parent, là qui est un border layout, va lui donner une tranche qui fait la bonne hauteur et va réserver le reste pour mettre dedans le widget center. Donc en emboîtant des panels avec des layouts différents, on va pouvoir fabriquer différents types d'interfaces. Alors, on va mettre ça en pratique, peut-être pas tout de suite, je finis sur les layouts et puis on va mettre ça en pratique après. Alors, grid layout, ça fait une grille avec des tailles, donc je crois qu'on en était à peu près par là. Ça fait une grille avec des tailles que les enfants ne choisissent pas. Donc, en gros, on choisit un nombre de colonnes ou de lignes. Ça coupe en autant de. Donc, si on a choisi trois colonnes, ça le coupe en trois. Et puis si on a 12 fils, ou si on a, je sais pas quoi, 7 fils, il va diviser par 3, il va se dire, ça tombe pas juste. Il nous faut au moins 3 lignes. Et donc, il va remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis il y aura 2 cases vides. Et dès qu'on arrive qu'il faut une ligne de plus, du coup, ça va réduire. Et alors, la taille des lignes est aussi la même. Donc, c'est ça le grid layout. Et les enfants choisissent pas, n'ont pas leur mot à dire. Le box layout, les enfants choisissent leur taille, quoi, disent ce qu'ils aimeraient avoir, et le parent fait de son mieux pour accommoder ça. Donc, du coup, la largeur des colonnes, c'est la largeur max des composants qu'il y a dans la colonne, et la hauteur des lignes, c'est la hauteur max des composants qu'il y a dedans, dans la mesure de la place disponible. Alors, le grid bag layout, alors ça, c'est une espèce d'abomination. En fait, on arrive là avec les layouts suivants. C'est des layouts qui ne sont pas faits pour être. On peut, hein, mais qui ne sont pas faits pour être programmés à la main où c'est nous qui écrivons le code. C'est des layouts qui sont faits pour fonctionner avec des outils graphiques de création d'interface. Donc vous savez sans doute, ou vous avez peut-être déjà vu, il y a ça dans NetBeans, je pense qu'il y a des plugins Eclipse pour faire ça aussi. Ou pour faire une interface, plutôt que la coder, plutôt que de coder des new JLabel, je sais pas quoi, button, etc. Vous faites du drag and drop et vous posez les composants dans une interface visuelle pour dire bah, voilà quelle tête aura ma fenêtre. Et en fait, ces layouts-là, la grid bag ou spring layout, c'est des layouts qui sont faits pour fonctionner visuellement sous forme de graphique. Alors, grid bag layout, en fait, il y a deux étapes. Il y a une étape où le parent, on va définir une grille, d'où le grid, qui ne va pas forcément être une grille régulière. On va définir un nombre de lignes, un nombre de colonnes, et puis les lignes et les colonnes, on va pouvoir dire, bah, par exemple, il y a une colonne, on leur donne des poids, et elles vont avoir des largeurs respectives proportionnel à leur poids. Par exemple, on peut répartir en trois colonnes, une colonne qui fait une largeur de 2 et deux colonnes qui font des largeurs de 1. Donc, il faudrait que mes deux colonnes aient la même largeur. Donc, je vais essayer de couper pile au milieu. Voilà, c'est mieux. Donc, en donnant des poids, vous allez définir une grille qui, donc, par exemple, vous pouvez faire une grille comme ça, là. Si ça fait 2, 2 et 1. Donc, celle-là va être moitié moins haute que les deux autres qui ont un poids de 2, et celles-là sont moitié moins larges que celles qui ont un poids de 2. Donc on définit une grille qui n'est pas forcément régulière. Donc déjà, ça c'est une première étape, définir cette grille. Donc il y a une API pour ça, on donne le nombre de colonnes et puis les poids des colonnes, etc. Donc c'est un objet un petit peu compliqué. Et après, quand on ajoute des enfants, on va dire dans. Quelle case va l'enfant, sauf qu'il peut être à cheval sur plusieurs cases. Donc en gros, on donne. Alors les lignes et les colonnes sont numérotées. Hein. On dit dans quelle case va notre composant. Et on dit un span, donc de combien il s'étend. Donc ici, il s'étend de deux cases en largeur et d'une seule case en hauteur. Okay. Et donc en faisant ça, bah on peut faire des imbrications un petit peu compliquées. Donc ça, c'est le. Alors par contre, l'API est horrible. On n'a pas envie d'écrire le code qui fait ça. Par contre, il y a des interfaces graphiques qui permettent de manipuler ça. Donc ça, c'est le grid bag layout. Grid bag layout. Si vous regardez le code que génèrent ces outils, c'est du code qui est fastidieux, qu'on n'a pas envie d'écrire, etc. Donc nous, on ne va pas aller là-dedans, mais sachez que ça existe. Et puis, le deuxième layout, c'est ce qu'ils appellent le spring layout. Alors là, c'est une autre métaphore. L'idée du spring layout, c'est que les enfants, vous allez pouvoir mettre des contraintes entre eux et avec le parent, et des contraintes des systèmes d'attache et de ressort. Donc, par exemple, si vous voulez qu'un truc soit centré dans le parent, vous voulez un bouton, je sais pas quoi, je sais pas, par une idée bizarre, vous avez dit, je veux le centrer, bah, vous dites que le bord gauche de mon composant et le bord gauche de mon parent sont reliés par un ressort, spring, et puis le bord droit et le bord droit sont reliés par un autre ressort. Okay? Donc, graphiquement, vous attachez des petits ressorts. Et du coup, là, quand on redimensionne, le bouton OK va rester au milieu. D'accord? Donc, on a des contraintes spring, et puis on a des attaches, on peut dire des anchors, on peut dire bah, le bas du bouton est attaché au bas de notre widget. Donc, ça, c'est les spring layout. Donc, là encore, une API compliquée pour attacher les morceaux entre eux, sachant que les enfants peuvent aussi, vous pouvez avoir des contraintes du type, là vous avez par exemple votre message, et il peut être attaché et aux parents et à un de ces de la fratrie. D'accord. Donc c'est pas tout par rapport aux parents, c'est les composants entre eux aussi peuvent être attachés entre eux. Voilà, pareil, ça génère du code qui est incompréhensible et qu'on n'a pas envie d'éditer à la main. Okay. Donc, bon, c'était pour être un peu complet, des layouts, il y en a d'autres encore une fois. Et voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, alors je vais vérifier juste que je n'avais pas d'autres choses à dire sur les layouts quand même. Non, c'est tout bon. Du coup, on a fini plus ou moins cette partie du cours-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est on va regarder une interface donnée. Et puis, vous allez réfléchir à comment vous feriez pour la fabriquer en emboîtant des composants. Alors, un exemple d'interface, qu'est-ce que je peux vous donner ? Alors, oui. Comment je vais faire ça si je sais. Hop. Tac, 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 tac. Alors, ne quittez pas, je reviens avec une image. Hop. S'il y a des questions, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. J'aurais dû commencer par ça. Dans le chat ou dans le Mattermost, si vous voulez. J'y suis aussi. Alors, on va faire ce petit exemple-là. Alors, je vais vous donner un exemple d'interface. Excusez-moi, je suis en train de faire pour pouvoir dessiner dessus, que vous voyez. Hop. Stack. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Hop. Et maintenant, il faut que je vous partage cette fenêtre-là. Donc, je bascule. Hop. Voilà, donc je vous affiche là. Hop, je vais remettre ma tête. Je vous affiche là l'interface de qu'il y avait une époque, c'est plus comme ça, le contrôleur du lecteur média VLC sur le Mac. Et je vous l'ai affiché en deux tailles parce que quand on redimensionne une fenêtre, évidemment, ça nous donne des indices sur comment est constituée cette fenêtre. Et là, on voit qu'il y a des composants qui restent à leur place. On voit qu'il y a des composants qui se dilatent en largeur. On voit qu'il y a des composants qui garde la même largeur et qui reste collé sur la gauche, qu'il y a des composants qui gardent la même largeur et qui restent collés sur la droite. Et en fait, en analysant dans une fenêtre ce qui se passe quand elle est redimensionnée, eh ben, ça va nous donner des indices sur comment est-ce qu'on pourrait créer cette fenêtre-là en emboîtant des composants et en utilisant des layouts. Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est que, étant donné cette interface, on va se poser la question, quel est l'arbre des widgets qui nous permettrait de fabriquer la même interface. Donc en haut, alors on va utiliser les widgets Java, hein, VLC c'est pas codé en Java, mais on va dire, si on voulait refaire cette interface utilisateur en Java, quel serait l'arbre des composants? Ok. Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là, c'est-à-dire que la barre de titre, vous vous souvenez, hein, je vous avais expliqué, la barre de titre, en fait, elle ne fait pas partie de la fenêtre, c'est ce qu'on appelle des décorations, et donc c'est le système d'exploitation qui nous la fournit, la barre de titre. D'accord ? Donc nous, on se concentre sur l'intérieur de notre fenêtre. Okay. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Je vais peut-être. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. C'est ça ou c'est pas ça, c'est ça. Je peux vous mettre plus gros et puis je bougerai si vous vous concentrez sur d'autres parties. Okay. Et donc ce qu'il faut qu'on regarde, c'est à l'intérieur de ce rectangle, comment est constituée notre interface. Okay. Je vais effacer mes petits gribouillages. Donc, on regarde pas du tout la barre de titre. Et donc, il faut imaginer derrière que c'est fait par un emboîtement de composants dont la position et la taille va être régie par des gestionnaires de géométrie qui peuvent être des border layout ou des flow layout. Et en général, en fait, vous allez voir qu'avec un peu d'expérience, avec juste des border layout et des flow layout, on peut s'en sortir très bien. Alors pour ça, du coup, il va falloir un petit peu réfléchir et de se poser la question, comment imaginer, voir l'emboîtement là où les bords des panels en fait ne sont pas dessinés. Alors il y a des endroits où les bords des panels sont dessinés, par exemple ici là, cette partie-là, on voit bien. Alors, elle est constituée de, en fait, en haut à gauche, je vais commencer à mettre de la couleur. Ici, on a une étiquette, d'accord. En haut à droite, alors ces morceaux-là, on les retrouve ici. Hein. Check. Suite au redimensionnement, et puis en bas. On a ça permet de se déplacer dans le temps, donc c'est un slider. Hein, l'utilisateur peut attraper le petit pouce là. Alors il a une tête qui n'est pas un slider qui est pas celle d'un slider Java. Il a une tête qui est différente, mais si on devait le coder, on mettrait un slider, quitte après à changer l'apparence du slider. Okay. Et donc on a des éléments de texte qui sont affichés. Donc ça, déjà, on peut se dire, la zone rectangulaire, elle a un bord, là, donc c'est vraisemblablement un conteneur qui a des enfants. Alors, des conteneurs avec des enfants qui sont positionnés, mais sans que ce soit interactif, sans que ce soit... donc, ce n'est pas un split pane, ce n'est pas un tab pane, ce n'est pas un viewport, il n'y a pas de scroll bar, etc. Donc, vraisemblablement, ce morceau-là, ça va être un panneau. D'accord, un conteneur géométrique qui va avoir trois enfants. Et ces trois enfants, va y avoir un label. Okay. Donc, je vais mettre de la couleur. C'est la partie lecteur multimédia. Va y avoir un autre label pour afficher une information. C'est la partie, ce qu'on a mis en bleu avec le temps. Et puis, il va y avoir un troisième un troisième enfant qui est la barre d'avancement, qui est sans doute un slider. Okay. Et donc la question qu'on se pose, c'est quel layout a ce morceau-là? Okay. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées, du coup? Alors, j'ai une proposition en privé, mais du coup, que je vais relayer à tout le monde. Et voilà, j'en ai une autre en public où on me dit c'est un border layout. Alors, qu'est-ce qui nous aiguille vers le border layout? Alors, c'est effectivement un border layout. Hein, je casse le suspense. Ce qui nous aiguille vers le border layout, c'est le fait qu'on ait un composant qui reste collé à gauche, un composant qui reste collé à droite, et puis un composant qui est en bas et qui manifestement ne choisit pas sa taille, puisque quand on va redimensionner quand le parent est redimensionné, eh ben, il va prendre la largeur qui est celle du parent. Donc il ne choisit pas sa largeur, manifestement. D'accord ? Donc quand on a un composant collé en bas ou en haut, qui, quand on redimensionne le parent, eh ben, se retrouve à garder la largeur du parent. Et quand on a des composants à droite et à gauche qui, quand on redimensionne, restent collés à droite et à gauche sans changer de largeur, mais changent éventuellement de hauteur. Alors ici, l'interface ne nous donne pas d'indice sur la hauteur. Hein. Le redimensionnement, ce n'est pas fait verticalement. Donc, on n'a que des indices sur horizontalement. Mais déjà là, on a l'indice, un indice qui nous dit bah, y a quelque chose qui est à gauche qui ne change pas de largeur, qui était collé à gauche, qui reste collé à gauche, quelque chose qui est à droite, qui ne change pas de largeur, qui reste collé à droite, et un composant en bas qui est collé en bas, qui reste collé en bas et qui change de largeur. Donc ça nous aiguille effectivement vers un border layout. Okay. Et donc le composant rouge est manifestement le composant ouest, c'est-à-dire qu'il est comme il reste collé à gauche, c'est dans la partie ouest. Hein. Vous vous souvenez le schéma général du border layout, là je le refais en petit, c'est d'avoir 5 enfants au plus, donc des tranches qui prennent toute la largeur qui sont collées en haut et en bas, des tranches qui prennent toute la hauteur sauf la hauteur des tranches du haut et du bas, et puis un composant au centre. Ouest, est, nord et sud. Alors là, vous avez vu, on n'a pas 5 enfants, on n'en a que 3. Donc les seuls qui sont remplis, en fait, c'est comme nord est vide, il ne prend pas de hauteur du tout, donc on a un composant à l'ouest. On a un composant à l'est et on a un composant au sud. Et le milieu, ben le milieu est vide. Il n'y a rien, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose partout. Okay. Donc ouest, ici on a dit est et ici on a dit sud. D'accord. Donc voilà, on a fait le travail pour la zone rectangulaire qui est ici. Alors, ben on va prendre d'autres couleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais remettre ça. Un petit border layout où j'ai mis la couleur. Je vais laisser ça. Donc ça, c'est est et ça, c'est sud. Ben ce qu'on peut faire, c'est regarder. Alors maintenant, l'intérêt des gestionnaires de géométrie qui sont emboîtés, c'est que du coup, bah, c'est pas à nous de, une fois qu'on a fait ça, dans la hiérarchie, vu du dessus, on n'a plus besoin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que le détail de ce qu'il y a dans notre arbre là, on peut l'oublier. Je remets mes petites annotations rouge et bleu là. Hop. On peut les oublier et on va se concentrer maintenant bah, sur le niveau du dessus. Alors là, je le fais en montant. Hein, des fois, on le fait en montant, des fois, on le fait en descendant. Et bah, par exemple, là, notre interface, elle a deux grandes parties. Si vous regardez, en gros, vous avez une partie à gauche qui, quand on a redimensionné, bah, pas du tout bouger. Et puis vous avez une partie à droite qui, quand on a redimensionné, Elle s'est redimensionnée. D'accord. Alors, on peut continuer à se concentrer, vu qu'on a fait la zone rectangulaire là. Alors, celle-là, elle était évidente parce qu'elle avait un bord. Et vous voyez que là, ce que je viens de faire, c'est découper mon interface en deux. La séparation, elle n'est pas évidente parce que elle n'est pas matérialisée graphiquement. Il n'y a pas un trait qui sépare ici verticalement. Ce qui m'a fait séparer en deux, c'est le fait que y a tout un bloc de l'interface, un bloc rectangulaire qui ne change pas du tout. Et puis, il y a un bloc rectangulaire qui, quand on redimensionne, lui, va se retrouver redimensionné. Donc, c'est sans doute que toute cette partie droite, elle est incluse dans quoi. C'est un composant, un panel qui a des enfants. Alors, si on se concentre sur ce morceau-là, quels enfants il a ? Il y a celui qu'on a déjà vu, qu'on a traité juste avant. Donc, il y a ce fils-là. Lui, c'est facile. C'est facile. Ce morceau-là, il est ici. D'accord ? C'est celui qu'on a traité juste avant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur ? Eh bien, on va redécouper. Alors, je vais remettre de la couleur. Hop, on a, si vous avez vu, on a un morceau à gauche, là, qui est le même que celui-là. Et on a un morceau à droite, qui est le même que celui-là. Et puis, le morceau noir, on l'a mis tout à l'heure, c'est lui. OK. Alors, sachant ça, comment est constitué ce truc-là ? Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Ça devrait... Donc, ça, c'est un composant qui a trois enfants. D'accord ? Alors, j'ai regroupé, c'est peut-être pas trivial, peut-être je suis allé un peu vite, là, j'ai regroupé les boutons ensemble. Pourquoi ? Parce que, en fait, les deux boutons, là, ils ont bougé ensemble. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'ils sont regroupés. Et là, j'ai regroupé, en fait, ça, c'est un slider pour régler le volume sonore. Mais si vous connaissez, cette interface-là, on peut cliquer pour couper le son, pour mettre au max. Donc, ça, c'est des boutons. Hein, ils n'ont pas de bord, etc. Mais ce sont des boutons quand même. Alors, j'ai des réponses en privé et en public, donc des panels. Oui, en fait, à partir du moment où on a des enfants, on va se retrouver très vraisemblablement avec un panel, comme parent, d'accord ? Donc, on s'attaque au morceau du dessus, là, qui va avoir, comme tout à l'heure, trois enfants. Tac. Alors, l'enfant du milieu... je vais prendre un peu de recul. Comment ça marche ? Comme ça, je vais remettre là. Je dois pouvoir. Donc, un des enfants, en fait, c'est la partie. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, comme ça. Hop, un des enfants, voilà, c'est ça. J'espère qu'il faut que je fasse ça. Un des enfants, c'est la partie qu'on a dessinée tout à l'heure. Non. Je galère un peu, hein. C'est un outil que je me suis fait moi, qui est un petit peu. Donc, un des enfants, c'est c'est la partie qu'on s'est faite tout à l'heure. Donc, on peut la mettre dans notre arbre directement. Et on a deux autres enfants qu'il va falloir qu'on détermine. Okay. Et du coup, alors la question, c'est quel layout pour ce panneau ? Alors, j'ai un JPanel avec deux boutons et grid layout pour tout mettre dans un autre JPanel avec border layout est et ouest. Alors, le grid layout, je ne le vois pas. J'ai des propositions de border layout. En fait, la plupart du temps, avec des border layout et des flow layout, on s'en sort. Hein, Donc, le panel là, vous voyez, il a une structure avec quelque chose à gauche qui reste collé à gauche, quelque chose à droite qui reste collé à droite. Et par rapport à tout à l'heure, la différence, c'est qu'on a quelque chose en haut qui reste collé en haut, qui fait toute la largeur, au lieu d'avoir quelque chose en bas. Donc, ce composant-là, on va le mettre au nord. D'accord? Donc, on a une structure. Si je reprends mon schéma général, là, on a une structure comme ça, un composant à gauche et un composant à droite, et rien au milieu. Et donc, on va avoir à l'ouest quelque chose et à l'est autre chose. Et alors, ces machins-là, ils ont des enfants. Donc, encore une fois, ben, on va se retrouver avec des panels qu'il va falloir remplir. Alors, on a un panel à gauche et un panel à droite. Et donc, les couleurs, là, alors je supprime les couleurs du niveau du dessous. C'est pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Check, donc c'est un J-label ici et un J-label là. Donc on a à l'ouest le J-panel qui est rouge maintenant et à l'est le J-panel qui est bleu. Et donc il va falloir s'attacher maintenant à la composition de ces machins-là hein, qui ont des fils. Alors le. Et oui, donc ce qu'on rajoute là, notre panel du haut, il faut préciser. Quel est son layout? Donc son layout, c'est un border layout. OK. Alors, on va se remettre par... pour un peu mieux. Donc le bout rouge là, qu'est-ce que c'est? Eh ben alors en bleu, j'ai une proposition avec un panel avec deux boutons et en rouge, un panel avec deux boutons et un slider. Exactement. Donc alors par défaut, les panels, vous vous souvenez, ils ont des flow layouts, donc ils vont mettre leur truc contre le bord gauche. Et en fait, comme une fois qu'ils sont remplis, on leur demande quelle taille ils aimeraient avoir et ils disent la taille dont ils ont besoin. En fait, que ce soit poussé à gauche ou poussé à droite. Ça change rien, ça va nous faire un alignement tant qu'ils ont assez de place, un alignement avec tout qui est dedans. Donc, c'est des panels, effectivement, avec leur layout par défaut qui marche bien puisque ça empile horizontalement. Et donc, celui de gauche, il va avoir pour commencer, un bouton. D'accord? Donc, c'est le bouton là-haut, là, c'est le bouton pour minimiser le son. Il va avoir un slider. Pour régler le volume sonore et un autre bouton pour maximiser le son. Et puis le bleu, là, il va se retrouver aussi avec. Alors, ces boutons-là, vous ne savez pas, mais en fait, c'est des toggle buttons parce que dans l'interface, ils permettent Mais bon, bouton, c'est pareil, hein. Mais dans l'interface de VLC, ils permettent de faire afficher une fenêtre à part avec les equaliseurs ou de faire apparaître la playlist. Et donc, quand ils sont cliqués, ils deviennent cochés. Quand on reclique dessus, ils sont décochés. Voilà. Et ben, on a progressé, mais on n'a pas fini, puisque en fait, si on regarde notre interface complète, ben là. Un morceau supplémentaire, ça c'est la partie gauche, et en fait on a encore un bloc à droite. Donc ça veut dire que là tout ce qu'on a fait, en fait c'est lui-même à l'intérieur, c'est l'enfant de quelque chose, et il y a un autre enfant qui est la partie gauche. D'accord. Je vais prendre tout ça, et je vais mettre tout ça. Oui, ça marche pas comme ça. Donc, je vais mettre tout ça là. J'ai une partie qui va être un peu cachée, mais ce n'est pas très grave. Et donc, cette partie-là, et ben, en fait, c'est l'enfant. Et puis, il y a un autre enfant qui est la partie qui va nous intéresser maintenant. Bah, la partie là à gauche. Ces deux machins-là auront un ancêtre commun qu'on verra après. Alors, ce panneau-là, lui, comment il est constitué? Alors, vous voyez qu'il a six boutons. Alors, il y a différentes manières de voir ça. On peut le voir comme un. On peut le faire avec des flow layout, mais du coup, il faut empiler des choses verticalement quand même. Le moyen le plus simple, c'est sans doute de faire une. Alors, non pas une grille, donc il y a une proposition de grid layout. Grid layout, ça donne la même taille à tous les enfants. Et là, on voit que le rang du haut est plus grand que le rang du bas. Et donc, ce serait plutôt un box layout, tout à fait. Okay. Donc, on peut lui mettre un box layout. Et à l'intérieur, bah, ce qu'on a, c'est en fait 2, 3, 4, 5, 6 boutons qu'il va falloir placer comme il faut. Okay. Alors, il y a certains des boutons qui sont vraiment des boutons. Le bouton Play Pause, c'est un bouton inverseur. Hein, quand on appuie dessus, il fait Play et il change de tête. Et quand on appuie dessus, il fait Pause. Donc, il fait deux actions différentes. Donc, il y a un endroit où il y a sans doute un J Toggle Button. Bon, bref, les composants précis au milieu de tout ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse là. Ce sont les layouts qui nous intéressent. Donc voilà, on a les deux morceaux de notre interface. Et alors, comment ils sont réunis? Ben, ils sont vraisemblablement les enfants d'un conteneur au-dessus. Et alors là, on peut se poser la question. Par exemple, dans le TP Graffeur, on avait une interface qui ressemblait avec une partie, un bandeau à gauche qui changeait pas de taille, et puis on avait notre graffeur à droite là, et puis nos listes de fonctions. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, mais on va faire pareil, on va faire un composant qui a deux enfants, on peut utiliser un split pane. Okay. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi c'est pas un split pane? Non, personne. En fait, le split pane, si vous vous souvenez, voilà, il n'est pas redimensionnable. C'est-à-dire qu'il fait le split pane, il fait partie des composants qui sont interactifs. C'est-à-dire où l'utilisateur va pouvoir agir. Je peux attraper la séparation là et redimensionner. Dans cette interface-là, qui a la même structure visuelle, je ne peux pas redimensionner. L'utilisateur ne peut pas choper la séparation là et la déplacer à droite ou à gauche. D'accord? Donc alors, oui, vous pourriez faire un split pane et le rendre pas interactif. Je crois que c'est possible. Mais à ce moment-là, vous auriez quand même la séparation vous auriez un trait là qui resterait visible. D'accord? Donc, plus vraisemblablement, et encore, je ne suis pas sûr, hein. On peut lui mettre une épaisseur. Ouais, alors ça fait beaucoup de. Vous voyez, si vous faites un split pane, vous commencez à le rendre pas interactif, cacher la barre en lui mettant une épaisseur de 0, etc. Posez-vous la question, pourquoi je suis en train d'utiliser un split pane? Il y a une meilleure solution en fait. Il y a une meilleure solution. Bah, c'est toujours, on va piocher dans nos layouts pas interactifs dont on dispose. On a le border layout, le flow layout. Et après, on en a bon, les greens, les box layout, etc. Mais je vous dis, avec le border layout et le flow layout, on peut déjà tout faire. Alors, on pourrait se dire, une idée qu'on pourrait avoir, c'est un flow layout où on pousse le bloc de gauche et du coup, on a un deuxième bloc derrière. Si on faisait un flow layout, quand on redimensionne, le flow layout, il n'impose pas de taille à ses enfants, c'est-à-dire qu'il prend la taille qu'ont les enfants. Donc si on redimensionnait, on se retrouverait avec du vide sur le côté. D'accord? Sachant que ce composant-là, apparemment, il aime bien avoir cette taille-là. Donc si on redimensionne, on aurait du vide à côté. Donc ce n'est pas un flow layout. Il nous faut un gestionnaire de géométrie qui impose quelque chose à ses enfants, qui leur impose une partie de leur taille à minima. Et donc ça, on en a un, c'est le border layout. Hein, donc il y a une proposition d'Yvan qui est de dire bah, c'est un border layout. Oui, vous vous souvenez, le border layout, il faut garder le schéma en tête là. Border layout. Donc alors évidemment, On a en tête avec 5 enfants. Pardon, c'est le sud. D'accord. Mais le border layout, on peut en faire une version. Quoi, on peut mettre moins de 5 enfants. On n'est pas obligé de mettre les 5 enfants. D'accord. Donc j'ai une proposition, un border layout avec un composant à l'ouest et un composant au centre. Et effectivement, si on fait ça, donc notre composant ouest, comme il n'y a pas de nord et de sud, il va prendre toute la hauteur. Et comme largeur, il aura sa largeur à lui. Et puis le composant centre, et ben dans le border layout, le centre, il ne choisit rien, il prend toute la place qui reste. Et donc quand on redimensionne, en fait, un gros indice que vous avez un border layout, c'est quand vous redimensionnez, s'il y a un composant qui prend toute la largeur qui reste et toute la hauteur qui reste, il y a des chances que ce soit le composant centre d'un border layout. Donc pour compléter notre arbre là, alors on arrive à tout en haut, donc ce n'est plus une frame, c'est sans doute un J-panel, notre racine, qui a sans doute un border layout. Et avec comme enfant nos deux morceaux là, okay, check, je vais rattacher ça, hop, comme ça. Celui-là qui est au centre et celui-là qui est à l'ouest. Et on a fini l'arbre des widgets qui nous permet de fabriquer. Qui nous permet de fabriquer cette interface. Donc voilà un exemple. Alors là, c'est moi qui ai travaillé. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que on va faire d'autres exemples. Et où... On va faire d'autres exemples où c'est vous qui allez travailler. Alors les autres exemples, je vais aller les piocher. Donc s'il y a des questions là sur celui-là, n'hésitez pas. Les autres exemples, je vais aller les piocher. Vous pourrez les piocher vous pour vous entraîner dans les examens des années passées. Donc si vous allez sur la page web du cours, vous avez un lien vers les archives des examens. Et dedans, il y a une question en général où je vous donne une interface utilisateur et je vous demande quel arbre vous utiliseriez de widget pour fabriquer cette interface. Donc j'ai une question en privé là qui demande si on peut définir le layout d'une JFrame. Oui, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, je me suis trompé là. Les frames, de ce point de vue-là, c'est comme les panels. C'est-à-dire que donc c'est pas un JPanel, notre racine, c'est une JFrame. C'est comme un panel, on peut faire un set layout dessus. Et par défaut, les frames ont un border Donc, en fait, du coup, ce border layout-là, on n'aurait pas besoin de faire un set layout puisque par défaut c'est ça. Et puis les panels qui ont des flow layout, les deux panels là, on n'aurait pas besoin de faire un set layout dessus parce que par défaut, le layout des panels, c'est le flow layout. Donc ces précisions-là ne sont pas forcément utiles. Là, dans l'arbre, je vous propose de les mettre quand même pour éviter toute ambiguïté. Voilà. Alors, je vais vous chercher un autre exemple. Voilà. Par exemple, alors, il est peut-être un peu compliqué. Les plus simples. Peut faire en 20 minutes. Alors, on va prendre lui. Ce sera bien. Alors, c'est toujours... toujours VLC. Hop. Le partage. Tchitac, je fais ça. Et là, on a un petit peu de place. Tac. Hop. Hop, le rond. Je suis là. Et je change mon partage pour oui, ma fenêtre. Ah, c'est celui-là. Voilà, alors nouvelle interface. Alors, je ne suis pas allé chercher très loin, c'est aussi VLC. Hop, je le mets en plus grand. Et cette fois-ci, c'est la playlist de VLC. Donc, je vous la mets en deux tailles différentes. Une fenêtre. Quand on la redimensionne, voilà comment elle réagit. Et je vous laisse réfléchir. Je vous propose de prendre un papier, un crayon, et puis de vous poser la question. Alors, donc c'est dans le sujet d'examen de 2019-2020, donc de l'année dernière. J'avais posé ça comme question. Le texte de la question est les figures ci-dessous donnent la fenêtre de l'application VLC sous macOS 10 avant et après un redimensionnement. Sachant que, alors il y a des petites précisions dans le texte qu'il faut lire, sachant que la largeur de la colonne de gauche peut être modifiée par l'utilisateur. Donc ça vous dit que la largeur de cette colonne-là, là, cette petite. Pardon, vous ne voyez rien. La largeur de cette colonne-là, là, la petite bordure, là, en fait, elle peut être attrapée et l'utilisateur peut modifier la largeur de cette colonne-là. Voilà. Donner l'arbre des widgets que vous utiliseriez pour coder cette interface. Donc l'année dernière, c'était en JavaFX, cette année, ce sera en Swing. Certains aspects ne peuvent être rendus simplement avec la toolkit. Les boutons collés, par exemple, ça en Java, les boutons collés, ça doit être faisable, mais il faut se contorsionner pas mal. Mais je ne vous demande pas ça, je vous demande tous ces petits détails graphiques, là, ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est juste les... la hiérarchie, les gestionnaires de géométrie et puis les composants qui sont utilisés. Ne détaillez pas le contenu de la liste de lecture, donc ça, c'est un seul composant, ni celui des catégories dans la colonne de gauche. Ça, je ne vous demande pas de me décrire le contenu de tout ça. Ça, c'est juste un composant. Voilà. Et voilà. Alors, dans les questions, j'ai en JavaFX, il est possible d'attribuer un padding et un margin aux composants. Est-ce que c'est possible avec Swing? Oui, alors ce n'est pas exactement la même API, mais effectivement, les composants, on peut dire, en plus de leur taille, on peut dire s'ils veulent avoir de l'espace autour d'eux, donc l'équivalent des margins. Alors, je ne sais pas s'ils font la distinction entre margin et padding. Je pense que le moyen de faire ça, c'est Non, je suis pas sûr en swing quoi. Regardez, je suis vraiment pas un spécialiste de ça. Doit y avoir moyen. J'imagine qu'il y a moyen. En JavaFX, c'est vraiment le modèle de HTML, donc c'est sûr qu'il y a moyen. C'est vraiment le modèle des CSS. Donc vous avez vraiment les options margin et padding, là, donc soit de l'espace entre éléments, mais pas autour, soit de l'espace autour des éléments, et du coup, avec un cadre autour aussi. Et en swing, je suis pas sûr. Je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai une proposition de Tom qui dit un split pane avec un toolbar en bas. Alors pour le split pane, je suis assez d'accord, puisque du coup, on se retrouve, le sujet vous le dit, on a deux morceaux. Pourquoi ça dessine pas? On a deux morceaux. Et le sujet vous dit que cette partie-là là, est redimensionnable. D'accord? Donc ça, effectivement, ça nous incite. Et donc c'est un petit piège entre guillemets. Faut apprendre à distinguer. Dans l'interface précédente, je vous ai dit, c'est pas un split pane, c'est un border pane. Donc là, ce qui fait la différence entre les deux, c'est si vous avez une séparation, si elle est interactive, que l'utilisateur peut modifier cette séparation, alors on a un split pane. Si elle n'est pas interactive, si on a une colonne qui garde une largeur donnée et un truc qui prend toute la place qui reste, à ce moment-là, on est au contraire dans le border pane. Alors, split pane, dans le border layout, pardon. Split pane, ce n'est pas un layout, c'est un composant. Donc, lui, il a des enfants. Donc, il n'y a pas besoin de spécifier son layout, il fait sa propre gestion de géométrie. Alors, on spécifie les layouts pour les JPane et pour les JFrame. Okay? C'est eux qui délèguent le positionnement de leurs enfants. Le split pane ne délègue pas le positionnement de ses enfants à un layout, il fait le positionnement lui-même et il coupe en deux et il donne à l'utilisateur la possibilité de choisir la largeur des colonnes. D'accord? Donc, je suis d'accord pour le split pane. Après, il y a une proposition, un toolbar en bas. Alors, oui, et du coup, on ne peut pas le mettre en bas du split pane. Hein. Contrairement, alors, dans le graffeur, si vous vous souvenez, on avait une interface qui était un petit peu de ce type-là, sauf que la toolbar, elle était à l'intérieur de notre liste de fonctions. Elle était en bas ici. D'accord? Donc, on aurait pu le mettre dans les enfants du split pane. Là, le composant du bas. Je vais mettre en bleu, là, en couleur, le composant du bas. Il n'est pas à l'intérieur du split pane. Il va être à côté. Alors, ce machin-là, toolbar, la question se pose. Alors, toolbar, en fait, hein, c'est on peut ajouter des boutons dedans et ça les ajoute de gauche à droite. En fait, c'est rien d'autre qu'un panel avec un flow layout, une toolbar. D'accord. Alors, c'est un peu plus que ça parce qu'on peut faire des adds sur les toolbars avec des. On a vu avec des. Pas que avec des boutons, mais on peut rajouter dedans des actions et ça va fabriquer les boutons automatiquement. Alors, ici, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la toolbar. Pourquoi? Parce que si vous regardez le composant du bas, là, il y a une partie, il y a des boutons à un bout, de l'autre bout, il y a aussi des boutons, etc. Et puis au milieu, on a un slider, encore une fois. Alors il a une tête encore différente, mais c'est un slider. Et si vous regardez, ce slider, il va changer de taille, contrairement à ce qu'on avait dans les exemples d'avant. Il va changer de taille, donc il va être collé et à droite et à gauche. Et ça, dans une toolbar. Tel que Swing, alors il y a peut-être d'autres toolkits où on peut mettre des sliders dans les toolbars et qui vont prendre de la place, mais en Swing, ça ne marchera pas directement. Alors du coup, il y a une proposition, un border layout pour le bas avec le slider en center. Voilà, ça, je suis plus d'accord avec ça. Donc on laisse de côté notre split pane pour l'instant, on va s'intéresser à la partie en bleu, et on va dire que ce machin-là, la partie en bleu, là, on remettra les bouts ensemble à un moment. Donc, la partie en bleu, ça va être un panel, puisqu'elle a des enfants, avec un border layout, carré en haut, carré en bas, hein, le schéma des border layout, hop, 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 5 enfants, mais ils ne sont pas obligés d'être tous là. Et alors, si vous regardez, nous, on a un bloc, on va retrouver ici, et on a un deuxième bloc, alors il faut que je prenne une autre couleur, hop, je vais mettre comme ça, on a un deuxième bloc ici, qu'on va retrouver là. D'accord. Et en fait, si vous regardez dans le schéma général du border layout, ça marche si on coupe notre, si on ne met pas de fils d'enfant en haut et en bas. Et si au centre, on met le slider, et ben quand on se redimensionne en largeur, le composant centre ne choisit pas sa largeur. Donc, c'est effectivement, le slider va se voir imposer sa largeur. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais du coup, là, si on redimensionnait en hauteur, le slider, il faudrait qu'il prenne toute la hauteur. Ben oui, mais il se trouve que là, quand on dimensionne, le parent qu'on est en train de décrire, là, notre panel bleu, lui, il ne change pas de hauteur, en fait. Alors, pourquoi il ne change pas de hauteur, ça, on va le voir plus tard. Mais du coup, pour l'instant, le comportement colle. Donc, du coup, ça nous fait 3 enfants pour ce panel. Je vais mettre un peu plus haut. 3 enfants pour ce panel. Avec... au milieu, le slider. D'accord, donc on peut le préciser, center. À gauche, bah, on va avoir des boutons. Donc, il va falloir mettre un conteneur pour contenir tous ces boutons. Et à droite, on va avoir pareil, des boutons, un autre slider, etc. Donc, il va falloir un conteneur pour mettre tout ça. Donc, on a le rouge ici et le violet là. D'accord. Et donc, ces conteneurs, on n'oublie pas, le panel, on a dit que c'était un border layout. Le panel de gauche, eh ben, il est à l'ouest. Le panel de droite, il est à l'est. Alors, le panel de gauche, c'est le plus facile. Là, lui, tchac, 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 il a des boutons, comme enfants, qui sont alignés de gauche à droite. Donc, on va le dire quand même, c'est un flow layout. Et puis, le panel de droite, je vais faire un petit peu de place. Alors, lui, il est un petit peu plus compliqué. Il a 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Mais on voit, hein, quand il garde toujours la même largeur. Donc, c'est sans doute un alignement horizontal fait avec. Alors, à gauche, on a un label pour afficher le temps. Ensuite, on a un bouton pour mettre le au silence. On a un slider pour régler le volume sonore. On a un bouton pour mettre au niveau max et on a un deuxième bouton, okay, pour maximiser notre fenêtre. OK. Alors ça, ça nous fait le morceau du bas. Alors, on a notre morceau du bas. Je vais le mettre dans un coin aussi. Hop. J'utilise notre morceau du bas. Je vais le mettre dans un petit coin de l'écran. Donc, vous voyez que pour une barre qui est en bas, là, on a quand même un truc qui est déjà un petit peu compliqué. On a la partie du haut à laquelle il va falloir qu'on s'attache. On a dit que c'était un split pane, mais on n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. Bah, peut-être qu'on peut faire ça maintenant. Alors, ah. Des propositions, du coup, pour le split pane. Qu'est-ce qu'on a à gauche, qu'est-ce qu'on a à droite? Une G-list à gauche. Alors, ouais, en fait, vous ne pouviez pas savoir, mais les catégories, là, elles sont cliquables et ça ouvre et ça ferme. Et donc, c'est plus un J-tree. Mais par contre, ce n'est pas vraiment un J-tree non plus parce que vous avez vu qu'il y a des petits numéros, là. Donc, il nous faudrait des colonnes pour ça. Et en fait, c'est un composant qui n'existe pas en Swing. En JavaFX, on a les table tree ou tree table, je ne sais plus. Tree table view, des choses comme ça. Et en Swing, on n'a pas. On va pas s'embêter, on va mettre un JTree. Effectivement. Okay, donc ça, c'est réglé pour à gauche. Et à droite, c'est un peu plus compliqué. Puisque. Alors, on vous dit, hein, le sujet disait ne détaillez pas le contenu de la liste de lecture ni celui des catégories dans la colonne de gauche. Alors, la liste de lecture, ouais, c'était peut-être un peu c'est cette partie-là. Donc, le contenu, c'est ça, mais il y a quand même un truc en haut là. On se retrouve encore avec un morceau qui est collé à gauche, un morceau qui est collé à droite. Et donc, on va la faire courte parce qu'il ne reste pas longtemps, mais. On se dit, bon, bah, ça va être un border Et puis, du coup, ça, ce serait le composant du centre. Et puis, on se dit, bon, on va faire vite. Du coup, en bas de notre border layout, on met une table. OK. Et si on fait ça ne marche pas parce que, du coup, l'idée qu'on aurait en tête, c'est un border layout. Je suis peut-être allé un petit peu vite là. C'est un border layout. On se dit, bon, bah, liste de lecture, là, on le met dans le composant gauche. Notre champ recherche, on le met dans le composant droit. Et puis toute la table, là, hein, puisqu'on a, on a cette espèce de forme en U, on va mettre notre table en bas. Et en fait, ça ne marche pas parce que le composant centre, quand on redimensionne, c'est lui qui prendrait toute la place. D'accord? Donc, si on avait un border layout comme ça, quand on passe du haut en bas, donc on a plus de place en hauteur et plus de place en largeur, ça voudrait dire que notre composant central devrait prendre toute cette place-là. Okay. Le liste de lecture devrait prendre toute cette place-là puisqu'il ne choisit pas sa hauteur. Il prend toute la hauteur que lui donne le border layout. Et le champ recherche devrait prendre toute cette place-là. Et notre table, elle, eh ben elle aurait eu cette place-là parce qu'elle aurait demandé au début d'avoir autant de place que ça, et du coup, elle garderait la même hauteur. Elle serait collée en bas, mais en gardant la même hauteur. Et c'est pas ça qui se passe. Elle garde pas sa hauteur, elle n'est pas collée en bas. Elle prend, elle aussi, la table, elle prend toute la place, toute la hauteur. Donc, on ne peut pas s'en sortir avec un simple panel et un border layout. Alors, est-ce qu'il y en a qui voient comment résoudre ce problème-là? Commence à fatiguer. Ouais. Mais en fait, on va être obligé d'emboîter des border layout les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir procéder en deux étages. Dire dans un premier temps que notre petite bande en haut, elle est en haut d'un border layout. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire un border layout avec une bande en haut et en bas notre table. D'accord? Donc, si on fait ça, effectivement, quand on redimensionne, si notre table est au centre, et bien notre table, quand on va redimensionner, elle va prendre tout l'espace. Okay? Donc, elle va pousser vers le haut la petite bande. Puis, la petite bande elle-même, pour avoir des composants poussés à droite et à gauche, il faudra qu'elle-même ait un border layout avec un fils gauche et un fils droit. Et rien au centre, rien en bas, rien en haut. Donc on est obligé d'avoir un emboîtement à deux étages pour faire ça. Donc un panel avec un border layout. Son composant centre, c'est notre table. Et son composant nord, donc en haut, eh ben, il est à redécomposer encore une fois. Et donc en faisant ça, notre petite bande du haut, là, c'est un composant nord, donc elle va être poussée vers le haut, et donc elle va garder son épaisseur toute fine. Et donc du coup, ce panel-là, lui, va maintenant avoir ses deux enfants. D'un côté, le label qui va correspondre à cette étiquette-là, Et de l'autre côté, un champ texte, alors c'est un J, texte, text field, input field, je ne sais plus en. Je sais plus en swing comment ça s'appelle, si c'est text field ou input field. Bon, suivant les toolkits, moi je vous demande pas de connaître par cœur le nom de tous les widgets. Hein, si vous mettez le nom d'un widget, text field, merci. Qui est pas exactement celui de la toolkit JavaSwing, c'est pas très grave, c'est pas grave du tout. Alors, ce qui nous manque là dans notre petit arbre, c'est de dire que notre label il est à gauche, ouest, et le text field est à droite, est. OK. Et donc on a les deux morceaux pour notre interface, le split pane et puis toute la ligne du bas qu'on a fait par ailleurs tout à l'heure. Alors, on va revenir. Stack. Voilà nos deux morceaux. Et la question, c'est comment on assemble ces deux morceaux? Et oui, il faut encore avoir un parent commun à ces deux machins-là. Donc ces deux machins-là, ils vont être côte à côte. Et ils vont avoir un parent commun qui peut être notre fenêtre cette fois-ci. Et donc par défaut, les fenêtres, elles ont un border layout. Est-ce que ça correspond? Bah oui, parce qu'on a une bande qui est tassée tout en bas. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le slider là. Il est un composant centre, donc il prend toute la largeur, mais c'est pas redimensionné en hauteur. Alors pourquoi c'est pas redimensionné en hauteur? Parce que tout ce morceau-là, il est tassé en bas. Il est tassé en bas. Pourquoi? Parce que c'est un composant sud. Et le split pane, il prend toute la place qui reste, et donc c'est un composant centre. Donc voilà l'arbre. Alors vous avez vu, hein, des fois on prend un petit bout, on part du bas et puis on remonte. Des fois on part du haut et puis on redescend en décomposant. Il n'y a pas vraiment de méthode générale pour faire ce travail-là. C'est un travail qu'il faut savoir faire. Pourquoi? Parce que en fait, quand on conçoit des interfaces, ça va passer, on ne va pas écrire le code directement, ça va passer par des dessins. On va dire, ah, bon, on aimerait que ce soit comme ça. Si on veut spécifier comment se comporte notre interface quand elle est redimensionnée, on va faire un dessin en petit, un dessin en grand. Et après, à partir de ces dessins-là, faut être capable, vous, programmeur, de trouver le bon emboîtement de composants et les bons gestionnaires de géométrie pour avoir une interface qui s'exécute, qui marche effectivement comme attendu par la spécification. Donc là, on fait du reverse engineering avec des applications qui existent, mais ce processus-là, il faut imaginer, on fait du prototypage, on dessine nos interfaces, du coup, pour après passer au vrai code, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc c'est une compétence qu'il faut que vous ayez. Ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, parce que là, j'ai beaucoup fait devant vous, évidemment, c'est un peu compliqué de faire autrement. Mais ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, déjà, il y a dans le sujet de TP, dans le loader, vous l'avez fait hein, par la force des choses. Mais là, j'espère qu'on a remis un petit peu les choses un petit peu plus comment dire, au carré. C'est-à-dire que vous voyez mieux pourquoi vous avez fait comme ça, etc. Et donc, pour vous entraîner, vous pouvez prendre les sujets d'examen des années passées et vous entraîner avec ce qui vous a. Avec ce qui a été proposé les années passées. Voilà pour aujourd'hui. Donc, cette séance de cours-là, c'est la 9, 10, 11. Donc, il reste. Deux séances de cours. C'est l'heure, donc il faut que je vous lâche. J'ai pas parlé du projet. Donc les deux séances de cours qui restent, on a fini le cours quasiment. Je reviendrai peut-être sur des petites choses intro, mais ce qu'on va faire surtout, c'est on va reprendre des examens, des sujets d'examen des années précédentes pour faire des révisions, les machines à état, etc., pour voir un petit peu. Donc vous pouvez jeter des coups d'œil au sujet des années passées. Et puis les séances de TP qui restent, je vous ai dit là dans le mail, en fait, elles sont consacrées au projet. Alors le projet, je suis désolé, c'est pas très bien formalisé. L'idée, c'est que vous créez une interface utilisateur pour le code que vous avez écrit dans les autres parties du projet, c'est-à-dire pour votre sujet qui est un gestionnaire de vidéo club, d'aller faire une interface graphique qui va implémenter les fonctionnalités qui va permettre à un utilisateur d'utiliser votre noyau fonctionnel. Voilà. Donc ça, on en reparle demain en TP si vous voulez. C'est un sujet très libre, puisque vous avez chacun un produit du code qui est complètement différent, donc vos interfaces vont être aussi complètement différentes. Sachez que les critères d'évaluation, ce ne sera pas est-ce que c'est joli ou est-ce que ce n'est pas joli. C'est pas la partie conception, encore une fois, on ne l'a pas abordée encore cette année. Et donc, du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment est structuré votre code. Est-ce que vous respectez bien les différents principes qu'on a vu en cours? Voilà. C'est juste ça. Voilà, bah, je suis désolé d'avoir débordé, j'avais pas vu l'heure. Du coup, je vais vous laisser maintenant. Comme d'hab, les questions sont possibles de manière asynchrone là, dans Mattermost. Et puis de toute façon, on se voit demain en TP pour des précisions. Allez, bah, bonne journée tout le monde. À demain.